Bonsoir. En cette période de chômage, qu'on peut dire massif, certes, le gouvernement annonce la baisse du chômage, mais les radiations n'ont jamais été aussi importantes. Donc se pose la question de comment garantir un niveau de vie correct à l'ensemble de nos concitoyens et donc lutter contre les inégalités. Le gouvernement, plus globalement les libéraux, table sur l'augmentation de la croissance pour réduire la pauvreté. Pour eux, tout est lié à la croissance. Sans croissance, pas de redistribution possible. Pourtant, d'autres économistes disent que la croissance n'est pas la solution, mais bien au contraire, qu'elle serait la cause des crises actuelles et qu'elle aggrave les inégalités et la pauvreté. Mon invité, Benoît Boritz, propose une sécurité économique, comme la sécurité sociale pour la santé, mais économique. Cette mesure permettrait de lutter contre les inégalités et la pauvreté, mais aussi de préserver la planète par d'autres productions, d'autres priorités. Donc, bonsoir Benoît, tu peux
bonsoir
te
Michel.
Présenter.
Très rapidement, je suis essayiste, j'ai écrit différents livres. Je me suis intéressé il y a une dizaine d'années aux coopératives, ou plus exactement les reprises d'entreprises par les salariés en coopérative. J'ai exercé des fonctions de journaliste dans le passé et aujourd'hui je me définis comme un chercheur militant.
Voilà, alors dans tes travaux, tu cites Timothée Parik et son livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». De son côté, Timothée, dans son livre, cite tes travaux pour une autre économie et une sécurité économique. Alors Timothée aurait dû être avec nous, mais un souci de dernière minute l'a empêché. Peut-être nous écoute-t-il. Alors je vous propose du coup, avec Benoît, de découvrir le projet de sécurité économique. Alors tout d'abord, Benoît, tu peux nous expliquer le principe.
Oui, ben, le principe de la sécurité économique, c'est de décréter que toute personne qui est en emploi, ou plus exactement toute entreprise qui embauche, doit toucher une allocation fixe mensuelle par emploi en équivalent temps plein. Donc ça s'applique aussi bien pour une entreprise, quelle qu'elle soit, société de capitaux, coopérative, association, qui embauche des personnes en régime salarié. Vous avez 10 salariés, vous avez droit à 10 allocations, on va dire par exemple de 1500 euros, à titre d'exemple. Et de même, si vous êtes indépendant et que vous voulez démarrer votre activité, en tant qu'indépendant, vous avez aussi droit à cette allocation. Alors, rapidement, on va faire un calcul et s'apercevoir que si je mets 1500 euros par exemple par personne, annuellement ça nous fait 18 000 euros et si je le multiplie par 28 millions d'actifs, on s'aperçoit qu'on arrive à quelques centaines de milliards d'euros, c'est-à-dire que ça dépasse le budget de l'État. Donc immédiatement la question qu'on me pose, facile, comment on fait pour financer ces allocations? La réponse est très simple. C'est de le faire par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un régime de redistribution où d'un côté, elles vont déclarer la richesse qu'elles ont produite et contribuer à la caisse commune sur un pourcentage de cette richesse produite. Et en contrepartie, ils vont recevoir des allocations en fonction du nombre de personnes embauchées. Et donc, de ce point de vue, toute entreprise, quelle qu'elle soit, est assurée, y compris indépendant, j'insiste là-dessus aux coopératives de travail, est assurée d'avoir une partie de son revenu garantie indépendamment du comportement économique de cette entreprise. Donc c'est vraiment un outil de mutualisation inter-entreprise, de solidarité entre entreprises, un outil qui permet de lutter contre le chômage, parce que par définition, les entreprises vont être incitées à embaucher puisqu'elles touchent une allocation par individu. Les individus vont éventuellement être incités, s'ils le souhaitent, à démarrer leur propre activité, seul, en indépendant, ou à plusieurs, dans le cadre d'une coopérative de travail, d'une SCOP. Et donc, logiquement, cette sécurité économique va nous amener à tendre vers le plein emploi.
Alors, voilà. On y reviendra, là, sur le plein emploi. Je t'avais reçu, il y a quelques années, pour présenter, à l'époque, tu as parlé de mutualisation partielle des revenus d'activité. Oui. Donc, on a évolué. Là, on n'est plus à mutualisation partielle, mais mutualisation totale. Enfin, non. Tu fais le lien comment?
Non, en fait, c'est simplement un changement de nom qu'on a pris. C'est-à-dire D'accord. qu'au départ, on en était à la forme. Nous étions un petit groupe à supporter cette idée. Donc, nous avions trouvé la définition exacte qui était mutualisation partielle des revenus d'activité. Ça faisait MPRA. Très franchement, c'est un logo un peu barbare. Et en discutant avec les unes et les autres, on s'est vite aperçu que, finalement, sécurité économique parlait à beaucoup de gens, puisque c'est effectivement de cela dont on parle, c'est apporter une sécurité sur le terrain économique, apporter de la résilience à l'économie, et en plus de ça, ça faisait sécurité économique qu'on trouvait naturellement complémentaire avec la sécurité sociale, en tout cas s'inspirant des mêmes principes.
Et le revenu universel que prônent certains ? Comment on fait le lien ou pas ?
Le lien peut être fait, effectivement, puisqu'il y a un principe d'universalité qu'on retrouve dans les deux propositions. Dès que nous sommes en emploi, nous avons droit à l'allocation avec la sécurité économique, alors qu'avec un revenu d'existence, comme son nom l'indique, c'est dès que l'on existe, on a droit à ce revenu. Peu importe que ce soit à 0 à 18 ans. Donc il y a un côté d'universalité qui est très proche. Maintenant, le problème fondamental du revenu universel, il est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une majorité de la population qui est en faveur de ce revenu universel. Pour être très clair, il y a un débat sur le revenu universel qui est mené depuis de nombreuses années. Et on s'aperçoit que l'inconditionnalité en fonction de l'existence n'est pas admise, ou alors à des niveaux très très faibles. Et si ça se passe à des niveaux très très faibles, on peut très sincèrement craindre que ce soit un petit peu un solde de tout compte des personnes qui auraient été délaissées par le secteur privé. Donc c'est pas de ça s'il s'agit. Je pense que le revenu universel, ça n'est pas une solution, c'est une aspiration à une société de liberté, tout ce que l'on peut dire. Probablement qu'on ira lorsque la société sera prête ou pas, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, on ne peut pas lui opposer ça comme solution à la question du plein emploi, qui reste un droit fondamental. Dans notre Constitution, le droit à l'emploi, à l'activité économique, quelque chose qui est inscrit en dur et qui n'est malheureusement jamais respecté.
Alors justement, j'ai des questions, quelques précisions. Donc ce principe est connecté à l'emploi, à la production. Par ce principe, on vise le plein emploi. Et on peut mettre en parallèle la réduction du temps de travail, les 4 jours et 32 heures.
C'est là qu'on commence à rejoindre la question de la décroissance, Michel. Il y a un tabou que j'aimerais vraiment briser, enfin une idée que j'aimerais vraiment briser, c'est l'idée que la RTT va créer des emplois. Je pense que c'est quelque chose qui est archi faux. La RTT, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, on va diminuer la durée légale du temps de travail. Okay, on va passer, par exemple, aujourd'hui, de 35 heures, qui d'ailleurs n'est pas respectée, on est en temps largement dessus, à 32 heures, par exemple, ou 30 heures, par exemple. Bon. Toute la question qui est posée une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on diminue les salaires en fonction ou est-ce qu'on maintient les salaires mensuels ? Donc, on va monter le salaire horaire. Première solution, on baisse les salaires mensuels. C'est très simple, personne ne sera pour, et tout le monde va faire des heures supplémentaires, donc de toute façon, la réduction de temps de travail sera inopérante. Ou, à ce moment-là, on maintient le salaire mensuel et donc on monte le coût horaire, et là, le fond du problème, il est que ce que l'on a fait, ce n'est pas des créations d'emplois, c'est une augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée en faveur des salariés. Donc c'est une très très bonne chose. Mais ça ne crée pas d'emploi, ça. C'est pas pour ça que les entreprises vont répondre en créant des emplois. Je prends juste un petit exemple. Les lois Aubry. Si on appliquait le ratio qui consistait à dire on diminue le temps de travail de tous et tous pour faire de la place aux autres, normalement, si j'appliquais l'arithmétique, on aurait dû avoir une création de 2,5 millions d'emplois. Or, Martine Aubry, dans ses prévisions, prévoyait au final d'avoir 700 000 emplois. Et quand on fait le bilan, alors bien entendu, les gens de droite disent ça n'a absolument pas créé d'emplois, ça en a même détruit, mais même les gens qui sont favorables à la gauche disent oui, ça en a créé 300 000, 400 000. Donc je mets en rapport le chiffre de 300 000, 400 000 avec 2,5 millions. On voit que la RTT, c'est pas fait pour créer de l'emploi. C'est fait pour d'autres choses.
justement, ça pose aussi parallèlement la question, donc quelque chose qui, moi, me tient à cœur, de quel emploi, quelle utilité sociale de l'emploi. On parle d'emploi de qualité, de travail avec le lien social, la perte de valeur du travail réalisé. Est-ce qu'on ne rentre pas aussi en parallèle, si on ne crée pas d'emploi, si on est sur le plein emploi, on ne se pose pas la question de cet emploi qui est créé?
Au contraire, ça n'est pas posé en tant que tel comme principe dans la sécurité économique, mais la clé de la sécurité économique, c'est cette allocation. Et plus cette allocation sera élevée, plus les contributions des entreprises seront élevées d'ailleurs en proportion, et plus les entreprises vont être incitées à proposer des emplois, et plus les individus auront le choix de leur emploi. C'est ça la question clé. Et cette question clé est essentielle dans la période que nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a perdu pas mal de son sens. Beaucoup de gens travaillent énormément de temps sur des travaux qui ne les intéressent pas. C'est ce qu'on appelle les fameux « bullshit jobs ». Pour paraphraser David Graeber, de gens qui vont au boulot le matin en disant bah « Maintenant, mon travail n'a pas de sens et j'aimerais en changer. » Or, aujourd'hui, ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi qui répondent à leur aspiration. Ou encore, dès qu'on veut un travail qui veut du sens, je pense que un des vecteurs essentiels, c'est aussi de créer son propre emploi, pas forcément seul, je ne suis pas du tout là pour prêcher l'individualisme, mais plutôt, je pense plutôt à des coopératives de travail, des SCOP, pour créer ensemble notre travail sur un projet d'entreprise qui a du sens, à la fois pour nos vies et à la fois pour la société.
Et alors se pose aussi, du coup, la question de la croissance. Parce qu'actuellement, la croissance, même si on ne veut pas être décroissant, la croissance est limitée donc, par le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles. Il y a un impact sur la santé. Timothée appelle ça le coût de la croissance.
Absolument.
Donc, dans ce système-là, quid de la croissance? Timothée, le lien, fait le lien avec la décroissance.
Bien sûr.
Toi, tu fais le lien aussi avec la décroissance?
La sécurité en tant que, économique en tant que telle n'est pas pour ou contre la décroissance. La sécurité économique, c'est un dispositif, c'est un projet politique, c'est une proposition. Bon. À partir de là, nous, en tant qu'individus, nous réagissons. Donc, si tu m'interpelles, moi, Benoît, c'est vrai que je sens bien, comme Timothée, que si nous voulons avoir une transition écologique réelle, il ne suffira pas d'optimiser le rendement énergétique, il ne suffira pas de verdir notre énergie pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, qui est celui de protéger la vie sur cette planète, protéger l'avenir des générations futures. On sent bien qu'aujourd'hui, je dirais, dans tout euro ou dollar de PIB, il y a un contenu carbone qui est énorme. Donc, on pourra peut-être changer certains paramètres. Ça ne sera très clairement pas suffisant. Donc, je suis d'accord avec Timothée, comme quoi la décroissance, elle se pose. On peut même s'interroger, est-ce qu'elle ne se pose pas déjà maintenant avec les dérapages qu'on a? On nous parle de croissance en permanence. On s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément au rendez-vous. Le problème, c'est qu'on a une économie qui est orientée vers la croissance, vers des activités souvent polluantes, et ce n'est pas forcément cette économie que nous voulons.
Alors, Timo, je vais prendre une définition de la décroissance, on va prendre celle de Timothée. Réduction de la production, de la consommation en parallèle, pour alléger l'empreinte économique, écologique. Pardon. Mais pour lui, cette réduction doit être planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et donc, on trouve dans cette définition la limitation de la croissance, mais la sécurité économique est possible aussi dans cette vision, disons, de sans croissance et même en décroissance. C'est possible de mettre en place cette sécurité économique, même sans croissance et en décroissance.
Je crois qu'il y a un mot qui est corrélé très fortement avec la décroissance, c'est l'égalité. La réduction des inégalités. C'est-à-dire que dans cette histoire de décroissance, on s'aperçoit que nous sommes dans une société avec des inégalités énormes et telles que, je dirais, ce sont les plus riches qui, de facto, polluent le plus. Donc, si on veut une société de décroissance, c'est évident que c'est sur la réduction du niveau de vie des plus riches que la question va se poser, de façon à avoir une vie, je dirais, de sobriété À nous de la faire heureuse, à nous de la rendre heureuse, voilà. Alors, si on fait maintenant le parallèle avec la sécurité économique, on peut le faire à deux niveaux. Le premier, c'est que la sécurité économique, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vous ai donné une définition tout à l'heure avec l'allocation. Son principe de base, c'est de prendre une partie de la richesse qui est produite par l'économie privée, de la sortir du marché pour la répartir de façon égalitaire entre celles et ceux qui ont produit. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? On a une réduction des inégalités qui est extrêmement forte, dans laquelle tout le monde trouve un emploi et dans laquelle, ben, quelque part, on va réduire les différences entre entreprises et donc on va s'en prendre directement au profit des entreprises les mieux pourvues. C'est ce que va faire la sécurité économique. Donc, ça va dans le même sens que la décroissance. Alors maintenant, la sécurité économique, nous avons un discours vis-à-vis de la croissance qui consiste à dire nous sommes une proposition qui fonctionne qu'on soit en croissance ou en décroissance du PIB. Pourquoi ? Ben, pour une raison extrêmement simple. D'abord, interrogeons-nous de savoir pourquoi on nous dit qu'il faut de la croissance pour résoudre le chômage. Ben, pour une raison très simple. Les législations sur le salaire minimum. Alors, il ne s'agit pas de les incriminer. Elles sont là, c'est un facteur de développement humain qui est fondamental. Je crois que si on n'avait pas de salaire minimum, nos sociétés seraient absolument invivables aujourd'hui. Donc, c'est une très très bonne chose. Le problème, c'est que si jamais je raisonne dans le marché tel qu'il est, ben, ça signifie que pour chaque nouveau poste créé, il faut qu'il y ait une valeur au moins égale au coût du SMIC. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc on nous dit, il faut de la croissance pour de l'emploi. Je le prends comme ça, mathématiquement, c'est juste, ça tourne. La sécurité économique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne dit pas ça. Elle dit, nous, on va s'arranger pour que tout le monde ait un emploi, au moins payé au SMIC, au moins. On fait même le pari que le plus petit salaire sera au-dessus du SMIC, si on est bien ambitieux dans les paramètres de la sécurité économique. Et à nous d'organiser des transferts entre entreprises pour que ceci devienne une réalité. C'est comme ça que procède la sécurité économique. Donc, dans une situation de décroissance, la sécurité économique est tout à fait capable de s'adapter à cette nouvelle donne et de fournir une allocation qui permettra de couvrir une grande partie du SMIC.
Et c'est aussi un outil de démocratisation. Ça doit se décider de façon démocratique.
Deux caractéristiques de cette sécurité économique. La première, c'est qu'on dit que c'est une proposition politique ouverte. C'est-à-dire que nous ne donnons pas, nous donnons des chiffrages en termes de paramétrage. Vous pouvez les trouver sur le site de la sécurité économique qui est sécuritéeconomique.org. On donne des chiffrages relativement précis de ce que telle allocation nous donnera tant de pourcentage de cotisation, mais notre propos, il est de dire que c'est la société et le débat politique qui va s'approprier la sécurité économique. C'est-à-dire que des gens vont dire, oui, on veut une forte allocation, donc une forte mutualisation, parce que ça va nous garantir un grand choix d'emploi. À l'inverse, il y aura d'autres gens qui tireront dans l'autre sens en disant, oui, mais là, vous sponsorisez trop les emplois, on risque d'avoir des emplois inutiles, etc. Autre discours, qui se tient aussi, hein, qui n'est pas absurde. Moi, nous, on a une position très très ouverte là-dessus. En même temps, si on va trop bas, ben on va revenir dans la société actuelle avec la misère. Bon, voilà, donc les paramètres sont là posés. Mais même chose, tout à l'heure, tu m'as interpellé sur le revenu universel. Cette allocation de la sécurité économique, on va l'expérimenter, mais rien n'empêche demain de dire que cette allocation va devenir inconditionnelle et versée aux individus. Donc, c'est un outil politique qui est totalement paramétrable. Le deuxième point pour lequel je pense que c'est un outil qui s'inscrit dans la démocratie, ben déjà, c'est un outil d'égalité. Donc, la d'égalité, pour moi, est très, très liée à la notion de démocratie, mais aussi et surtout quelque chose qui va favoriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pas du tout dans le sens Macron de la Startup Nation, bien entendu, je ne parle pas de ça, mais je parle de l'entrepreneuriat en termes de démocratisation de l'entrepreneuriat. Que nous soyons toutes et tous capables de démarrer une activité si nous le souhaitons. Si nous préférons le rapport salarial, ben ma foi, il y a le rapport salarial, il n'y a pas de problème. Mais qu'au moins, le jeu soit ouvert et que tout le monde soit capable de créer sa propre activité si il ou elle le souhaite.
Et alors, quand on parle de croissance, maintenant, on vise beaucoup ce qu'on appelle la croissance verte. Qui est un leurre, mais est-ce que c'est un outil qui peut permettre justement cette sécurité économique de mettre un petit peu tout ça À sa place, j'allais dire.
Le problème de la croissance verte, c'est grosso modo un non-renoncement à la croissance sur le terrain qu'on va verdir les énergies. Donc on nous présente une fable assez gigantesque, comme quoi c'est fantastique, ça va créer des emplois. Bon, ok, ça va créer des emplois. On ne sait pas comment ils seront financés, ces emplois. Déjà, ça, c'est le grand problème. Qui va payer ce genre de choses? On ne sait pas. Donc, c'est une espèce de leurre. Et ça rejoint à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qui consiste à dire pourquoi on est pour la décroissance. Ou plus exactement, pourquoi on pense qu'elle est incontournable. Elle est incontournable parce qu'on pense que la transition énergétique ne sera pas suffisante en tant que telle pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique et aux enjeux de l'écologie en général. C'est tout. Donc, pour répondre à ta question vis-à-vis de la transition, je parlerai pas de croissance verte, mais de transition énergétique qui, elle, est indispensable, même si elle n'est pas suffisante, le grand intérêt, à mon sens, de la sécurité économique, c'est de faciliter des transferts d'emplois d'un environnement vers un autre. C'est-à-dire, soyons clairs, hein. Lorsque l'on va s'engager dans une décroissance ou même dans une transition énergétique, il y a des énergies qu'il va falloir stopper. Il y aura des emplois qui seront détruits. On ne peut pas décemment dire aux gens, voilà, vous allez perdre votre emploi, puis il n'y a rien d'autre en face qu'un revenu universel. Ça ne marche pas. Non. Il faut qu'en face, ça en dise, oui, ok, vous allez perdre votre emploi, mais ce n'est pas grave, parce que pour un emploi de perdu, 10 de retrouvé, comme dit un petit proverbe.
D'accord. Alors, nous nous retrouvons après une pause musicale.
Accord à côté sur
nouveau survêtu sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis ton voisin qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanana. J'ai pas fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique. Ou en particules toxiques dans l'organisme.
Attends, mais qu'est-ce que je raconte?
Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins. C'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi.
Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment.
Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jambes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis ton voisin qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour, plante une graine, qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil, dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes, horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis ton voisin qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanana.
Alors, nous nous retrouvons à Ibena Boritz pour un alter regard sur la sécurité économique. Alors, pour les économistes dont tu fais partie, ainsi que Timothée, je voudrais revenir sur ce problème d'augmentation de la croissance. Parce que pour des économistes, l'augmentation de la croissance est un outil de lutte contre la pauvreté. Et or, toi, et ainsi que Timothée, bien entendu, vous dites qu'au contraire, l'augmentation de la croissance ne diminue pas la pauvreté, et même bien au contraire, elle aggrave la pauvreté. Donc comment tu expliques ça ?
Oui, alors ça peut paraître un paradoxe, puisque fatalement, tout le monde dit, lorsque on augmente la richesse monétaire, forcément il y en a plus pour tout le monde. Alors, on peut effectivement raisonner arithmétiquement en se disant, bah tiens, on est dans une société où on va augmenter, puis on va rester juste, c'est-à-dire que tout le monde aura sa part du gâteau, et puis on va monter de cette façon. Quelque part, c'est un petit peu ce qui existait dans les Trente Glorieuses, d'une certaine façon, et qui sont interrompues au milieu des années 70. Bon. Ça, c'est l'arithmétique. Dans la pratique, la grande question qui est posée, que Timothée Parik pose dans son livre d'une façon extrêmement claire, c'est qu'est-ce que la richesse ? Est-ce que ces indicateurs de PIB dans lesquels on va agglomérer toute une série de travaux correspondent bien à une augmentation du bien-être. Je m'explique en deux mots. Si jamais une grande partie de nos activités consiste demain à réparer les dégâts que les ouragans ne vont pas tarder à produire et produisent déjà, est-ce que c'est réellement une augmentation de la richesse ? Probablement pas. De même, est-ce que lorsqu'on a de fortes inégalités dans le cadre d'une croissance, on va avoir des externalités négatives extrêmement fortes de la part des personnes qui polluent le plus et qui vont se traduire en dégradation de la qualité de vie de la majorité de la population. Donc, est-ce que... Alors, bien entendu, le PIB, il mesure ça en disant, c'est formidable, on a augmenté. Notre bonheur n'a pas augmenté, ça n'est pas une véritable richesse. Mieux encore, on s'aperçoit, alors là, il y a de multiples travaux universitaires, Timothée Parik en cite dans son livre, on peut en retrouver aussi chez Jean Gadret, Les nouveaux indicateurs de richesse aux éditions à découverte avec sa collègue Jeannie... dont j'ai perdu le nom, Morécatrice, je crois. Morécatrice. On s'aperçoit que de multiples études nous montrent que à partir d'un certain niveau de PIB, ben, le bonheur stagne, même si le PIB continue de monter, ou pire, il régresse. Donc, on est aujourd'hui, je pense, dans un paradoxe dans lequel, bon, finalement, cette société de la croissance pour la croissance n'a plus aucune signification pour l'individu. Voilà un petit peu où on en est là-dessus. C'est pour ça qu'on dit, ben oui, effectivement, une société de croissance. En plus, très souvent, les sociétés, la croissance est stimulée par des dispositifs capitalistiques qui augmentent les inégalités, donc créent encore du mal-être, parce que les inégalités fortes, je pense qu'il n'y aura jamais d'égalité, personne ne dit ça, absolue, bien sûr, mais des inégalités fortes, c'est très franchement une situation de malaise assez terrible, et voilà, il est urgent, très franchement, de changer de modèle.
Alors, les libéraux disent autre chose. Les libéraux disent aussi qu'avant de distribuer, il faut produire. Mais vous démontrez que l'on produit suffisamment pour le nombre d'humains sur la planète et que donc c'est un faux problème, qu'en fait, le problème, c'est la répartition. Autre chose, les libéraux disent qu'avant de distribuer, il faut produire. Mais vous démontrez qu'on produit suffisamment pour le nombre d'humains sur la planète. Et ça me paraît très important de dire on produit suffisamment. Il faut arrêter d'opposer ceux qui ont rien et ceux qui ont. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un problème de production, mais d'un problème de répartition. Et la sécurité économique réduit un petit peu ces inégalités-là aussi.
Alors, la sécurité économique, elle a l'avantage de réduire ces inégalités à la source. Déjà, ça, c'est une question essentielle à mon sens. C'est que aujourd'hui, lorsqu'on parle de réduction des inégalités, d'une façon générale, on fait référence aux travaux de Thomas Piketty sur la réduction des inégalités par la fiscalité, par une fiscalité progressive, par une fiscalité sur les revenus, une fiscalité sur les patrimoines, etc. Je pense très sincèrement qu'il s'agit d'une impasse parce que, bon, je dirais, à quoi ça sert de générer des revenus pour après les reprendre par l'impôt. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De même, moi je veux bien qu'on réduise les patrimoines de 1% tous les ans, 1,5% tous les ans. Bon, je veux bien, c'est gentil ça. La question c'est pourquoi ? Or, la sécurité économique, son intérêt c'est déjà de réduire les revenus à la source. C'est-à-dire de poser cette question de faire une première répartition. C'est-à-dire des gens qui étaient sans emploi, maintenant vont avoir un véritable salaire. La sécurité économique n'intervient pas directement sur le salaire. Donc les salariés des sociétés impactées, on va toucher les profits des entreprises, pas autre chose. Une autre caractéristique de la sécurité économique que je vais très brièvement développer, c'est la notion de financement des investissements, financement mutualisé des investissements, financement mutualisé du capital. C'est-à-dire qu'en fait, avec la sécurité économique, on va réduire les besoins en capitaux de l'économie. Donc très concrètement, ça signifie qu'une société cotée en bourse, une société de capitaux, par définition, va voir sa valeur réduite par la mise en œuvre de la sécurité économique. Donc on n'est pas là à faire un petit machin, vous avez gagné je ne sais pas combien en bourse et puis on va vous en prendre quelque chose. Non, on va agir directement sur la valeur des sociétés. C'est ça qui est important. Je pense que de ce point de vue, travailler à la source me paraît infiniment plus fécond que d'avoir des discussions infernales sur le terrain. Ah oui, mais tout cet argent je l'ai gagné, on est en train de me le reprendre. Non. Voilà.
Donc ça pose autrement le problème de la répartition, en fait, complètement autrement.
Ah, complètement autrement, oui, c'est à la source.
Alors, autre point aussi, les libéraux, donc on l'a un petit peu abordé déjà, mais je voudrais y revenir, disent que la croissance est fortement liée à l'emploi et que donc si on diminue la croissance, on augmente le chômage. Or, pour vous, ça n'est pas lié du tout, il y a d'autres processus qui peuvent se mettre en place.
Oui, toute la question, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la croissance. La croissance, si jamais on ne pratique pas de redistribution dans la sphère marchande, il est évident que quand on veut avoir des emplois supplémentaires, il faudra créer une valeur qui est au moins égale au paiement du coût du SMIC. Alors déjà, un petit aparté pour montrer combien ce débat est faussé aujourd'hui. Pendant des années, pour qu'il n'y ait pas un chômage trop monstrueux, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de croissance sur la base de ce postulat, on a procédé à deux choses. On a développé l'emploi indépendant sous une forme d'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire un emploi qui est socialement dégradé, avec une protection sociale minimale, au rabais, etc., d'une part. Et d'autre part, on a procédé à des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires et tous les salaires autour du SMIC. Compensé aujourd'hui par l'État. Mais il faut savoir que ça coûte 50 milliards d'euros au minimum tous les ans, ces exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. Donc, on s'aperçoit que ce mythe, parce qu'il s'agit d'un mythe, comme quoi il faut de la croissance pour créer de l'emploi, on ne l'a jamais obtenu. Une fois que ceci est posé, on reprend les choses comme il faut. Oui, effectivement, si on devait avoir 50% de cotisations sociales sur un SMIC aujourd'hui qui est aux alentours de 1700 euros bruts, oui, de nombreuses entreprises feraient faillite. Oui, de nombreuses entreprises ne seraient pas capables de payer ce SMIC. Si par contre on procède par redistribution à la source dans un régime commun inter-entreprise, alors ce SMIC, avec la totalité de ses cotisations sociales, c'est possible. C'est la possibilité de gagner 50 milliards d'euros de marge de manœuvre budgétaire. Et aujourd'hui, on en a besoin, très très clairement, pour l'État, pour développer les services publics. Alors, la sécurité économique ne travaille pas sur la sphère de l'économie publique, c'est vrai. Il n'empêche qu'elle a une incidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'État a du mal à recruter des enseignants, a du mal à recruter des soignants, aussi bien parce que les salaires ne sont pas là où ils devraient être, aussi bien donc en nombre incapable de faire ça, avec 50 milliards d'euros déjà pour commencer, parce qu'il y en a d'autres, on est capable de largement plus soigner l'économie publique. Je dirais que l'intérêt de la sécurité économique, c'est de responsabiliser l'économie privée. On nous bassine sans arrêt de responsabilité sociale et écologique des entreprises, prises une à une. Ben là, il y a une chose, c'est responsabiliser socialement le secteur privé. Et responsabiliser socialement le secteur privé, ça veut dire exiger de lui qu'il crée les emplois dont on a besoin de façon à ce que personne ne soit sur le bord du chemin.
Alors, la question, c'est tous ces fonds, comment ils vont être gérés, tous ces fonds socialisés, là ? Ils ne vont pas rentrer dans le marché financier. Comment on va organiser ça pour éviter de tomber, justement, sur la spéculation et tout ça ?
Ben, c'est très simple. On dit sécurité économique complémentaire de la sécurité sociale. C'est ce qu'on dit sur notre site web sécuritééconomique.org pour une raison extrêmement simple. C'est que c'est des systèmes de répartition, ni plus ni moins, qui sont à l'écart de tout ce qui est marché financier. Le principe de la sécurité sociale, c'est qu'on collecte des sommes qui vont dans des caisses, lesquelles sommes vont être immédiatement dépensées, au mois près, peu importe, en termes de paiement des soignants, paiement des médicaments, paiement des santé, paiement des retraites, etc. La sécurité économique fonctionne exactement sur le même principe d'une caisse, c'est-à-dire que chaque mois, chaque entreprise se met sur le portail web, déclare la richesse qu'elle a créée. Allez, je prends un hasard, on vous prend 40% de ça, donc vous devez 40% de ça. En échange, vous avez combien de personnes ? Ah, vous avez embauché 10 personnes en équivalent temps plein, donc vous avez droit à 15 000 euros. Et puis, il y a deux situations, puisque les budgets sont équilibrés. Ce sont des caisses qui s'équilibrent. Soit l'entreprise, elle gagne de l'argent avec ce système, auquel cas, elle touche son argent tout de suite. Soit, au contraire, elle en perd et elle va devoir payer au régime. Ça va s'équilibrer. Donc, c'est un régime qui est complètement à l'écart de toute logique financière.
C'est là qu'on retrouve la mutualisation qu'on avait dans la dénomination précédente, et bien mutualiser tout
absolument,
ça.
Absolument.
Alors si on regarde, en fait, ce que vous proposez, donc toi avec la sécurité économique et parallèlement Timothée avec les croissances, c'est un autre projet de société.
Oui, ben je pense que ça peut être vu comme complémentaire. Encore une fois, comme je l'expliquais, la sécurité économique est un mécanisme, une proposition politique, etc. La décroissance en est une autre, mais on s'aperçoit que ce sont deux propositions qui ont tout intérêt à se rencontrer pour un nouveau projet de société. La sécurité économique ne fait absolument pas de la croissance un préalable. Je pense que la décroissance, elle signifie moins de production, elle signifie réduction du temps de travail. Tout à l'heure, on a abordé la réduction du temps de travail. Et là où je trouve qu'une loi sur la RTT sera extrêmement importante, c'est justement dans un cadre de décroissance. C'est de dire, maintenant suffit, on travaillera, aujourd'hui on est à 35 heures, peut-être que demain il faut aller à 30 et peut-être demain à 25 et au-delà. Je ne suis pas là pour débattre des chiffres, mais juste pour donner des ordres d'idées. Et on sait que la sécurité économique est capable d'accompagner ce mouvement. Je prends un exemple tout bête, qui est extrêmement clair. Je fais une réduction du temps de travail. Elle s'applique au monde salarial. D'accord, ok. Quid des indépendants ? Si jamais je réduis le temps de travail, je vais compenser vis-à-vis des entreprises ça par une augmentation de l'allocation, donc une augmentation des contributions des entreprises, et donc les indépendants seront incités, parce qu'ils auront une allocation garantie plus importante, à moins travailler.
Et peut-être embaucher,
parce qu'effectivement, ils auront l'allocation. Voilà. Mais enfin, l'indépendant qui embauche, c'est bien qu'il aille en coopérative, là.
Agora Cotation.
Donc, parallèlement, se pose aussi la question, si on met tout ça en un seul et même projet, dans ce projet, on ne peut pas éviter de se poser la question de dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va produire. Préserver l'habitabilité de la planète et une autre relation vivante. Si on ne se pose pas cette question-là aussi, on va continuer à produire des choses qui polluent, qui bouffent le sol, les ressources et tout.
Je crois que Timothée Parik a absolument raison d'insister sur l'idée que la décroissance doit être le fruit et la résultante d'un débat démocratique. Faute de quoi, la décroissance, elle n'a pas tellement de chances de fonctionner. Et ce débat démocratique, c'est bien entendu vers quoi on va, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait très très concrètement. Bon, la sécurité économique, c'est quelque chose qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une sécurité économique qui fonctionne dans un environnement de croissance. Ça n'est pas farfelu, ça ne dit pas décroissance, décroissance, la sécurité économique. Mais mon propos est de dire que je ne sais pas qu'est-ce qui ira en premier à l'agenda politique. Est-ce que ça sera la décroissance? Est-ce que ça sera la sécurité économique? Personnellement, ça m'est égal que ce soit l'un ou l'autre. Imaginons que ce soit la décroissance. Je pense très sincèrement que la sécurité économique est l'outil qui permettra de l'accompagner. Imaginons que ce soit la sécurité économique. Bah, si c'est la sécurité économique, je suis persuadé que nous serons un petit peu plus relax vis-à-vis de la question de la croissance à tout prix et qu'on pourra engager ce débat sur la décroissance. Donc ces deux projets, je pense, se combinent parfaitement. Ce sont deux projets différents qui se combinent parfaitement. Et je ne sais pas dans quel ordre ils arriveront, mais une chose est certaine, c'est que l'un aidera l'autre et inversement.
Et là se pose la question aussi de la façon dont nous produisons, avec donc le partage des richesses et redéfinir la prospérité. Qu'est-ce que c'est que prospérité ? Parce que sinon, on reste dans le schéma actuel.
Bien sûr, bah redéfinir la prospérité, à mon avis, il y a différents vecteurs qui nous permettent de le redéfinir. Pour moi, redéfinir la prospérité, c'est d'abord se réconcilier avec le travail. Je crois qu'on est dans une situation terrible où une partie de la population travaille contre son gré, une autre est privée de travail. Un changement civilisationnel, c'est vraiment se réapproprier le travail. Je crois que ça, c'est le premier point. La deuxième question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on ne va pas produire, etc. Je pense qu'il y a des éléments de débat qui sont amenés, alors des éléments qui portent sur des interdictions, par exemple. Il y a peut-être à un moment donné dire, oui, les vols intérieurs, peut-être qu'on n'en veut plus. Il y a des inversements, on veut probablement favoriser les transports ferroviaires. Je pense à RailCop, qui cherche à relancer des lignes de traverse en France, qui est une entreprise coopérative vraiment intéressante du point de vue de la transition écologique. Donc effectivement, ça suppose d'aider ce type de projet. Or, RailCop, c'est intéressant. C'est un projet citoyen qui s'est créé en dehors de la sphère étatique. C'est ça qui est, à mon avis, assez intéressant. Donc on va voir foisonner toute une série de projets dans cette hypothèse, dans cette approche. Et je pense que c'est cet ensemble, réappropriation du travail et qu'est-ce que nous voulons réellement produire, qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui pour nous, quelle société nous voulons, qui fera qu'on aura une société heureuse. Une société de décroissance n'est pas une société de récession, ni de régression.
Et ça pose aussi la question donc, que tu viens d'aborder un peu de la démocratisation de l'économie et donc des transformations des entreprises en coopératives. Alors, sortir des entreprises de ce système
Alors ça, c'est effectivement une question à laquelle je me suis intéressé pendant de nombreuses années, et comme tu le sais, puisque j'ai écrit dessus. Je pense très sincèrement que le premier pas de la démocratisation de l'économie, c'est le choix de l'emploi. C'est-à-dire sortir de l'emploi obligé, en quelque sorte, pour vivre, pour qu'il y ait un réel choix d'emploi. Ça ne veut pas dire on fait ce qu'on veut chacun dans son coin, non, ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'au moins il y ait pour chaque personne plusieurs emplois possibles, même pour toutes les personnes de la société, plusieurs emplois possibles, de façon à ce qu'on soit capable d'effectuer ces choix. Pour moi, ça c'est le béaba de la démocratie économique. Et à partir de là, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer leur propre emploi, reprendre leur société de capitaux qui peut-être aura des problèmes à un moment donné en coopérative, devenir maître, je dirais, de leur travail, c'est-à-dire le travail des aliénés. Il n'est pas impossible non plus qu'on ait toute une série de personnes qui ne souhaitent pas ça, qui souhaitent au contraire rester dans le cadre du travail salarié. Ben, ma foi, pourquoi pas, mais ça voudra dire que on va accepter certaines exigences des détenteurs de capitaux dans ce cas-là. Je crois que là, il faut être absolument clair là-dessus. Hein. Le vrai débat, à mon sens, il est là. C'est soit on reste dans le cadre du travail salarié, mais il va falloir rémunérer le capital, soit on en sort, on est dans le travail des aliénés. Ça veut dire des rémunérations qui, oui, sont variables. Par contre, le grand intérêt de la sécurité économique, c'est d'apporter une stabilité à ces rémunérations de façon à ce que ceci soit acceptable. acceptable. On voit aujourd'hui qu'il y a un mouvement des SCOP qui se développe très très vite aujourd'hui, malheureusement trop petit, mais il se développe largement plus vite. Grosso modo, on est sur des taux de croissance de 7 à 8% tous les ans, donc ça n'a rien à voir avec ce que la croissance de l'économie en tant que telle, hein, je crois en taux d'emploi, hein, en nombre d'emplois. C'est un modèle qui fait ses preuves. Je ne pense pas que les salariés de SCOP soient malheureux parce que leurs rémunérations sont variables. Non, bon, ils ont un salaire de base et puis ils ont la totalité des résultats que produit leur entreprise comme un travailleur indépendant, sauf qu'ils sont associés.
Et ça pose la question des personnes, on va dire, privées d'emploi. Bon, c'est pas, on part du principe que ça va embaucher, mais quid des personnes qui vont rester quand même sur le côté ?
Je vois pas pourquoi il y aurait des personnes qui resteraient sur le côté, mis à part des cas extrêmement spécifiques de handicap, voilà. Et on aura toujours besoin de dispositifs pour les personnes handicapées, quoi qu'il en soit, dérogatoires, peut-être des allocations beaucoup plus fortes. Ça. Bon, voilà, c'est tout. Mais je ne vois pas pourquoi, avec la sécurité économique, il y aurait des personnes qui resteraient à l'écart de ce mouvement général de l'emploi choisi, hein, qui peut être un emploi salarié ou un emploi désaliéné.
Et ça pose la question aussi de la formation.
Ah ben bien sûr que ça pose la question de la formation. De toute façon, ça c'est le grand problème, c'est que tant qu'on est dans un monde salarié, ben, je dirais c'est la formation à ce que l'entreprise a besoin qui est là. Dès qu'on commence à rentrer dans du travail coopératif, ben on est en train de parler de formation aux outils de gestion que les coopérateurs maîtrisent totalement la vie de l'entreprise, s'approprient la comptabilité, etc. C'est vrai que c'est une révolution culturelle à faire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un mouvement de 80 000 personnes qui l'accomplit tous les jours. Donc c'est possible.
Alors, pour le moment, les politiques qui sont complètement opposées, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour essayer de les convaincre, les politiques, après on verra les... Comment on peut les convaincre quand on prend maire, comment il s'appelle le maire là, les...
Bruno.
Edmond, on pourrait y arriver.
C'était il y a une époque.
On pourrait y arriver. On aurait pu, mais Bruno Le Maire, par exemple, comment on arrive, quel argument pour convaincre des gens comme ça qu'il faut changer, quoi. Complètement changer de paradigme, d'organisation, de tout.
Bon, ces gens-là, de toute façon, ont été élus. Ils sont minoritaires en France, hein, ça c'est clair. Hein, c'est une spécificité de la Ve République. On peut gouverner en étant minoritaire dans un pays. Bon, peu importe. Si ce n'était pas le cas, ça aurait dû être fait en coalition. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont en charge. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un Bruno Le Maire soit enthousiasmé sur la question du choix de l'emploi. Une fois ceci posé, il y a un argument auquel il devrait sérieusement réfléchir. C'est la question de l'équilibre budgétaire. Ils nous bassinent pendant des années sur l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, ils prennent des mesures. Alors, on a vu, par exemple, le budget de la santé qui a été adopté, je crois, il y a 15 jours. Et il faut voir les commentaires qui étaient placés là-dessus. C'était une grande partie de rigolade parce que personne n'y croyait sur l'équilibre de ce budget. Tout le monde disait, mais de toute façon, c'est où il n'y a pas de santé, ou on va le dépasser de façon à ce que quand même l'activité de santé publique ait une certaine tenue. Donc voilà, donc tout le monde savait que ce budget ne serait pas tenu. Aujourd'hui, on peut arrêter de rigoler. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'État, le budget public, subventionne, soutient le secteur privé à hauteur de 100 milliards d'euros par an. Je le rapporte au budget de l'État qui est de l'ordre de 300 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a un resserrement des taux, la dette va coûter de plus en plus cher, donc on ne pourra, alors on peut effectivement dire on va défausser la dette, mais je n'y crois pas beaucoup, je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Il faut retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Donc je crois très sincèrement que des gens comme Bruno Le Maire et autres auraient tout intérêt à regarder ce que la sécurité économique pourrait apporter. Je ne doute pas un seul instant, comme la sécurité économique est une proposition ouverte, qu'ils seront certainement pour des paramètres très très faibles de la sécurité économique, et inversement, on peut espérer que la gauche sera pour des paramètres relativement forts.
Mais parallèlement, il y a aussi des économistes qui sont opposés. Donc, bon, je pense sur la décroissance, je pense à Jean-Marie Arribet, que nous connaissons bien, qui a toujours été, moi je l'écoute toujours connu, le décroissant, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le connaît, voilà. Mais il n'est pas seul, quoi. Comment, alors quel argument pour convaincre ces économistes qui sont normalement plutôt proches de ce que tu défends et qui pourtant sont contre? C'est pas le même argument que c'est Bruno Le Maire.
Oui, mais c'est un débat qui est vieux de 20 ans, ça.
Oui.
Donc, de toute façon, moi, je crois... Enfin, bon, je vais être assez cru. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche se trompe depuis... dans ses directions. La gauche est véritablement en crise, c'est-à-dire qu'autrefois la gauche représentait 50% de l'électorat. Aujourd'hui, les candidats de gauche à la présidentielle, tous unis, les quatre, faisaient 30%. Lorsque la gauche est unie dans le cadre de la NUPES, avec un candidat par circonscription, elle tombe à 25%. Donc je pense sérieusement qu'il y a un malaise, et à gauche, il va peut-être falloir commencer à écouter d'autres voix que celles qu'on écoute depuis bien longtemps.
D'accord. Alors, pour terminer, on va citer quelques livres. Alors, les tiens, bon, je ne vais pas les citer tous, mais « Coopérative contre capitalisme » et « Au-delà de la propriété », tu as choisi ces deux. Tu peux dire pourquoi tu as choisi ces deux ?
Oui, ben le premier, Coopérative contre capitalisme, c'est aux éditions Sileps 2015, c'est le fruit d'un travail journalistique, d'enquête sur des entreprises reprises en salariés par les en coopérative. Et la deuxième partie du livre porte sur cette idée, bon c'est bien gentil de saluer les coopératives, comment on fait pour que ces coopératives deviennent majoritaires dans l'économie. Donc c'est là d'ailleurs dans ce premier livre que j'émets la première proposition de sécurité économique. Le deuxième livre, Au-delà de la propriété pour une économie des communs, est un livre publié aux éditions La Découverte en 2018. J'ai cherché à travailler au-delà de la forme coopérative en me disant, bon, forme coopérative est une forme très intéressante dans laquelle le capital est second, ce qui n'est pas le cas de la société de capitaux. On se réunit pour valoriser un capital, pas dans la coopérative. La coopérative, on se réunit pour un objet social et le capital est second. Et je me suis aperçu que souvent le capital revenait. Donc, dans ce deuxième livre, j'ai cherché à dire comment je passe de la coopérative, ou plus largement d'ailleurs en reprenant toute l'histoire du mouvement ouvrier du 19e siècle et 20e siècle par rapport à la propriété, comment on passe vers d'un projet de propriété collective à un projet de dépassement de la propriété productive. Et c'est à ça dont je me suis opposé, basé là-dessus. Et dans ce livre, Au-delà de la propriété, vous retrouvez cette proposition de sécurité économique, formulée sous un autre nom, mais peu importe. Et effectivement, une des caractéristiques de la sécurité économique, c'est que sur la partie mutualisée de l'économie, la partie mutualisée de l'économie disparaît des bilans des entreprises. Cette partie, en quelque sorte, maintenant, elle est répartie de façon égalitaire entre les individus, on n'en parle plus, elle sort des comptes, elle réduit les besoins en capitaux, et donc on réduit l'importance de la propriété. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, je dirais, la sécurité économique pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bah, le capital de l'économie sociale et solidaire, je m'excuse d'être vulgaire, mais il n'a jamais été très attractif. Bah, pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas là pour rémunérer les gens. Comme on met du capital dans une coopérative parce qu'il y en a besoin, etc. Bah, là, on réduit les besoins en capitaux de l'économie en général. Et donc l'ESS aura des capacités de mobilisation infiniment plus fortes avec la sécurité économique que ce qu'elle a dans le régime marchand pur.
Et là, ça pose la question, de tout moment, ça joue sur tout le marché financier.
Parce oui,
on sort du marché financier toute une masse de...
Oui, absolument, absolument. On sort du marché financier une masse importante de valeurs, ça c'est très très clair. Mmh. Ensuite, il y a des réflexions à se faire sur qu'est-ce que ça va vouloir dire le libre choix de l'emploi. Ça rejoint un petit peu cette discussion qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que les gens vont avoir envie de rester dans un régime salarial, auquel cas, bah, faudra laisser une place au capital, ah, c'est clair. Hein. Ou alors ils souhaiteront en sortir, et s'ils en souhaitent, on n'en a plus besoin du capital. Donc voilà l'alternative qui est posée, mais encore une fois, ça n'est ni à toi ni à moi d'écrire l'histoire, mais ce sont les individus qui la feront.
Et puis ça pose la question aussi du niveau où on le met en place, au niveau du pays, au niveau européen, au niveau... voilà, il faudrait élargir.
Oui.
Il ne faut pas rester au niveau de la France, il faut à minima qu'il y ait un accord au niveau européen pour que ça puisse marcher aussi.
Pas forcément. Mmh. Tout ce qui est législation sociale reste du cadre national dans le cadre de l'Union européenne. Donc on peut tout à fait envisager un pays qui se lance seul dans la sécurité économique et qui sera peut-être suivi par d'autres ensuite. Et on peut aussi généraliser cette sécurité économique en disant on fait une sécurité économique entre les États membres de façon à diminuer les inégalités entre pays. C'est encore quelque chose qui est possible et envisageable.
Alors, autre livre pour terminer, Timothée Parik, Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance aux éditions du Seuil. Alors si vous n'avez pas eu en entier Benoît, vous pourrez le réentendre le 9 mars de 21h à 22h. Merci, un mois prochain pour un autre Alter Regard.